6h-9h, c'est votre matinale info avec Sébastien Krebs.
Et Théo Manval pour le journal. Rebonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le Sénat veut chiffrer le nombre d'agressions subies par des maires. Il lance une grande consultation après la mort de Jean-Mathieu Michel, renversé à Signes. De nouveaux incendies que les pompiers ont toutes les peines du monde à maîtriser en Ardèche. Près de 100 hectares sont partis en fumée dans une zone particulièrement escarpée. Dans ce journal également, information Europe 1, Tariq Ramadan sera entendu en France par la justice suisse. Vos sorties cinéma, c'est mercredi, les Playmobil débarquent sur grand écran. Et puis l'exploit de la cycliste allemande Fiona Kolbinger, qui a battu tout le monde, y compris les hommes, sur l'une des courses d'endurance les plus dingues au monde.
Europe 1.
C'est donc un questionnaire qui va partir la semaine prochaine dans les boîtes aux lettres de tous les maires de France. Le Sénat veut mettre un chiffre sur les agressions qu'ils subissent après la mort de Jean-Mathieu Michel, renversé par une voiture dans l'exercice de ses fonctions à Signes. La commission des lois de la Chambre haute va élaborer ce texte pour rendre tangible une tendance déjà dénoncée par beaucoup. Adrien Beck.
Le Sénat à la rescousse des maires. À partir de la semaine prochaine, tous les élus recevront un questionnaire dans leur boîte aux lettres. Car entre menaces, incivilités, agressions, les sénateurs veulent pouvoir quantifier le phénomène. Le président Les Républicains de la commission des lois, Philippe Bas.
La question de la sécurité, jusqu'à présent, n'a pas été traitée en tant que telle. On parle beaucoup du statut des maires, de leur formation, du retour à une activité professionnelle pour ceux qui l'ont interrompu, des droits sociaux, et un petit peu moins de ces conditions d'exercice au quotidien qui, parfois, sont assez dissuasives.
Une consultation donc menée conjointement avec François Baroin, le président LR des maires de France, est lancée en quelques heures. C'est notre rôle, assure Philippe Bas, d'autant que la loi sur le statut de l'élu arrivera en octobre sur le bureau des sénateurs. Ça nous permettra d'apporter notre pierre à l'édifice, explique un conseiller, sans oublier les municipales de mars prochain. Cette opération, sourit un sénateur, ça permet aussi de montrer que la droite s'occupe des maires.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et ce climat effectivement délétère pour de nombreux élus. Europe 1 l'a constaté dans de nombreuses régions. Mathieu Bock, le quotidien n'est plus seulement fait des petites interpellations ou invectives. Les violences désormais sont de plus en plus fréquentes.
Il y a 10 jours, Jean-Marc Bergia, le maire d'une petite commune de 2300 habitants, s'oppose à des membres de la communauté des gens du voyage qui veulent s'installer sur un terrain municipal en déversant des gravats dans un fossé pour faire passer leur caravane. Le maire est violemment attaqué par 2 hommes qui seront condamnés à 9 mois de prison avec sursis. Aussi, lorsque Jean-Marc Bergia entend parler de la mort de son collègue de Signes, il repense immédiatement à son agression.
J'aurais pu prendre un coup de couteau, j'aurais pu être tabassé. On peut tout imaginer avec des gens qui sont déterminés, d'autant plus aujourd'hui malheureusement avec mon collègue Michel, le maire de Signes. Oui, c'est une possibilité. Je crois qu'il faut l'avoir en tête de manière aussi à ne pas se mettre en danger. C'est pas renoncer non plus pour ne plus rien faire parce que finalement on a un état de non-droit qui s'installe et là ça devient compliqué.
Pas découragé pour autant, Jean-Marc Bergia entend se représenter en 2020. Contrairement à Catherine Gatignol, la maire de Valbelay, une petite commune de 129 habitants dans le Puy-de-Dôme, jette l'éponge après s'être fait agresser.
Moi, ma décision est prise. Je ne me représenterai pas en 2020. Je n'ai pas jeté l'éponge d'un seul coup. J'ai été menacée de mort en octobre 2017. On est désarmé face à cette dégradation de la fonction.
En 2020, on estime que la moitié des maires ne se représentera pas, dont un tiers à cause de relations conflictuelles avec leurs administrés.
Mathieu Bock. Et les maires en première ligne face aux incivilités, parfois la violence, des maires aussi qui jettent l'éponge. On en parle à 7h40. Je reçois Vanik Berberian, il préside l'Association des maires ruraux de France.
Et concernant l'enquête à Signes, le conducteur de la camionnette est toujours en garde à vue. Ce matin, il plaide lambardée accidentelle après une altercation. Cet homme de 23 ans devrait être présenté aujourd'hui à la justice.
Il est 7h04 sur Europe 1.
À La Blachère, en Ardèche, près de 300 pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes.
Et près de 100 hectares de végétation ont brûlé depuis 15h hier après-midi, malgré les moyens déployés et les 9 canadaires qui ont effectué des largages. 3 sapeurs-pompiers ont été blessés. Le feu est désormais fixé, mais pas éteint, car la zone est très compliquée d'accès, comme l'explique la préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman.
C'est un feu difficile parce que c'est un feu dans un milieu extrêmement escarpé, très mité, puisqu'il y a des vignes, il y a des bois, et avec notamment des pins, et des pins dont on sait qu'à chaque fois, c'est des combustions très difficiles, puisque vous avez des aiguilles de pins qui partent, qui brûlent, qui se propagent plusieurs dizaines de mètres plus loin, Et donc, c'est un feu extrêmement difficile à terminer, j'ai envie de dire. Malheureusement, on a, depuis le début juin, pas eu une goutte de pluie. On a des sécheresses infinies, des températures extrêmement élevées et du vent. Donc, tous les ingrédients, hélas, pour faire brûler beaucoup, beaucoup et très vite.
Françoise Souliman, la préfète de l'Ardèche, jointe pour Europe 1 par Johanna Chabas. Tandis que plus au nord, dans la Haute-Loire et la Loire, plusieurs communes ont vu leurs rues inondées à cause des violents orages, notamment à Montbrison. Il reste 10 départements en vigilance orange ce matin, du Tarn-et-Garonne à l'Isère. En Bourgogne, en revanche, Voies navigables de France restreint la circulation des bateaux sur plusieurs canaux. Conséquence de la sécheresse, c'est la toute première fois, dit VNF, que nous sommes confrontés à une sécheresse de cette ampleur.
Et on parle justement de la sécheresse. Dans 10 minutes, notre dossier Europe 1 va plus loin. Cette information Europe 1 à présent, Tariq Ramadan va être entendu en France par des enquêteurs suisses.
Déjà mis en examen pour viol dans 2 dossiers dans l'Hexagone, l'islamologue est aussi visé par une autre plainte pour viol et séquestration à Genève depuis 1 an et demi. La justice suisse voulait pouvoir l'interroger, elle va donc se déplacer, Salomé Legrand.
Début juillet, ses avocats avaient fini par déposer un recours contre la lenteur de la justice suisse. La quinquagénaire qui accuse Tariq Ramadan de viol dans un hôtel de la rive droite de Genève en 2008 s'impatientait. Plainte déposée en avril 2018, ouverture d'instruction 5 mois plus tard, puis plus rien. En réalité, des auditions et une confrontation étaient prévues l'hiver dernier, mais elles ont été annulées à la dernière minute. C'est la France qui avait refusé de permettre à l'islamologue sous contrôle judiciaire de quitter le territoire. D'après des documents que nous avons pu consulter, les autorités ont invoqué le risque de soustraction de Tariq Ramadan à la justice française. Après avoir réclamé aux Helvètes les éléments de leur dossier, la France a finalement accepté la demande d'entraide internationale et ouvert la possibilité pour les enquêteurs et magistrats suisses de venir à Paris interroger l'islamologue. D'après nos informations, ce sera le cas à l'automne prochain.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Les recherches s'intensifient en Malaisie pour tenter de retrouver une adolescente franco-irlandaise de 15 ans disparue depuis dimanche alors qu'elle était en vacances avec ses parents. Elle n'était plus au matin dans sa chambre d'hôtel. La jeune fille souffre d'un léger handicap. 180 agents sont mobilisés pour la localiser. La police ne parle pas pour l'instant d'un enlèvement.
C'est mercredi et il est peut-être temps d'aller au cinéma. Pourquoi pas au cœur de l'été, nos conseils avec un dessin animé qui va réveiller des souvenirs.
En avant les histoires, Playmobil débarque dans les salles obscures comme l'avait fait Lego il y a quelques temps. Ça promet déjà d'être l'un des succès de cet été. Alors que faut-il en penser? Mathieu Charrier l'a vu pour nous.
Plus de 3,5 milliards de Playmobil ont été vendus à travers le monde depuis leur création il y a 45 ans. C'est donc étonnant qu'aucun film n'ait vu le jour avant, d'autant que les Playmobil, 6600 figurines différentes, donnent autant de personnages cinématographiques possibles. L'histoire est donc celle de Marla et de son petit frère Charlie, humain en chair et en os, sauf que Charlie se retrouve propulsé dans l'univers des Playmobil et que Maria va donc devoir partir à sa recherche, tous deux transformés en figurines.
Au cours de ces derniers mois, un certain nombre de citoyens se sont littéralement volatilisés.
Vous pensez que ce sont les mêmes personnes qui ont enlevé mon frère ?
Bien.
Dans une heure, tu devras te battre pour ta vie dans mon arène.
On devrait bien s'amuser.
Charlie va notamment croiser un vendeur ambulant avec la voix de Cadmerad, un agent secret aux intonations de Franck Dubosc, et puis surtout l'empereur romain Maximus interprété par Jérôme Commandeur.
Moi ce que j'adore c'est la tenue parce qu'en fait la coupe de cheveux, les fringues et le slip vont ensemble. Voilà, ce qui est très rare.
Alors Playmobil vaut surtout par le plaisir que l'on prend à voir s'animer ces figurines de notre enfance. Pour le reste, l'histoire est une aventure bien sage, limite ennuyeuse. Pensez plus pour les enfants que pour les adultes qui les accompagneront.
C'est noté, Mathieu Charrier.
Et puis là, ce n'était pas un jeu. On va terminer avec cet exploit au bout de l'effort pour une cycliste allemande de 24 ans.
Fiona Kolbinger, c'est son nom, est devenue hier à Brest la première femme à remporter la Transcontinental Race, l'une des courses d'endurance les plus difficiles au monde, 4000 km. Des confins de la Bulgarie jusqu'à la pointe du Finistère. Kolbinger est arrivée plusieurs heures avant son premier poursuivant. Elle a battu tout le monde à plate couture, y compris les hommes, Rémi Bossaron.
10 jours, 2 heures et 48 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à cette jeune Allemande pour aller des rives de la mer Noire au Finistère, seule sur la route, complètement seule. Dans cette course, il n'y a pas d'assistance. Il faut tout avoir sur son vélo pour dormir, se nourrir, réparer sa machine. Et pour gagner, Fiona Kolbinger a dû rouler 19 heures par jour, 400 km quotidiens en passant notamment par les Alpes. Et au bout, donc, la victoire pour cette chercheuse cancérologue qui participait là à sa première épreuve d'ultra-endurance. Alors hier, vous me direz, Elle a dû trouver une foule pour célébrer son exploit. Eh bien, pas du tout. Vous allez entendre l'ambiance à son arrivée et les premiers mots qu'elle prononce. Hey. Du jambon et du fromage, c'est tout ce que demande Fiona Kolbinger quand elle arrive dans cette salle pratiquement vide. À sa demande, elle ne voulait pas croiser trop de monde, trop fatiguée pour parler, et pourtant elle en gardait sous la pédale. Voilà comment elle a commenté sa performance. J'aurais pu attaquer encore plus et dormir encore moins.
Allez, absolument
incroyable. Rémi Bostard pour Europe 1.
Oui, elle aurait mérité une ovation un peu plus forte quand même. Bravo à elle. Merci, c'était le journal de Théo Manval.